Michel de Montaigne, extrait du chapitre 25 du premier livre des essais sur l'éducation des enfants, à Madame Diane de Foix, comtesse de Gurson. Quelqu'un qui était chez moi, ayant lu mon chapitre précédent sur le pédantisme, me disait l'autre jour que j'aurais dû m'étendre un peu plus sur le sujet de l'éducation des enfants. Or, madame, si j'avais quelques connaissances sur le sujet, je ne serais mieux l'employé que d'en faire le présent à ce petit homme qui promet de faire bientôt irruption chez vous, car vous êtes trop bien né pour commencer autrement que par un garçon. Car ayant pris une telle part à la conclusion de votre mariage, j'ai quelques droits et intérêts à la grandeur et à la prospérité de ce qui en adviendra. Sans parler de l'ancien titre que vous avez sur mon dévouement et qui m'obligerait déjà à souhaiter honneur, bien et avantage pour tout ce qui vous concerne. Mais en vérité, je sais seulement cela. Traiter de la façon d'élever et d'éduquer les enfants semble être la chose la plus importante et la plus difficile de toute la science humaine. Dans l'agriculture, les opérations à faire avant de planter sont précises et faciles, et planter n'est pas plus difficile. Mais dès que ce qui a été planté prend vie, on se trouve devant de multiples façons de faire et de grandes difficultés. Il en est de même pour les hommes. Les planter n'est pas un gros travail, mais dès qu'ils sont nés, on se trouve devant de multiples soucis, d'embarras et de craintes quant à la façon de les élever et de les éduquer. La manifestation de leur tendance est si ténue et si peu visible en ce bas âge, les promesses si incertaines et si trompeuses qu'il est bien difficile de fonder là-dessus un jugement solide. Voyez comment Simon, Thémistocle et mille autres personnages ont évolué au cours de leur vie. Les petits des ours et des chiens manifestent leurs inclinations naturelles, mais les hommes, eux, prennent facilement des habitudes, adoptent très vite des coutumes, des opinions et des règles, et donc se changent ou se déguisent facilement. Il est pourtant difficile de forcer ces penchants naturels. C'est pourquoi, à défaut d'avoir bien choisi leur voie, on se donne souvent du mal pour rien et l'on passe beaucoup de temps à inculquer aux enfants des choses qu'ils ne peuvent parvenir à maîtriser. Pourtant, face à cette difficulté, mon opinion est qu'il faut toujours les diriger vers les choses les meilleures et les plus profitables et que l'on ne doit accorder que peu d'importance à ces prévisions et pronostics superficiels que nous formons à partir du comportement enfantin. Dans sa République, Platon me semble leur accorder trop d'importance. Madame, c'est une grande ressource que la science est un outil de la plus grande utilité, notamment pour les personnes que le destin a placées à un rang aussi élevé que le vôtre. En vérité, elle n'est pas faite pour être mise entre des mains viles et basses. Elle est bien plus fière d'offrir ses moyens pour la conduite d'une guerre, pour diriger un peuple, pour gagner l'amitié d'un prince ou d'une nation étrangère, qu'à mettre au point un argument dialectique, à plaider en appel ou prescrire une quantité de pilules. Ainsi, madame, vous qui en avez savouré la douceur et qui êtes d'une famille lettrée, car nous possédons encore les écrits de ces anciens comtes de Foix dont vous descendez, monsieur le comte, votre mari et vous, et monsieur de François de Candale, votre oncle, ont fait naître de nouveau tous les jours, qui étendront sur plusieurs siècles la reconnaissance de cette qualité pour votre famille. Je crois que vous n'oublierez pas cela dans l'éducation de vos enfants. Et c'est pourquoi je vous dirai sur ce sujet la seule idée qui m'est propre, opposée à l'usage habituel, et c'est là tout ce que je pourrais apporter comme contribution à ce sujet. La mission du précepteur que vous donnerez à votre enfant et dont le choix conditionne la réussite de son éducation comporte plusieurs autres grandes tâches dont je ne parlerai pas parce que je ne sais rien en dire de valable. Et sur le point à propos duquel je me mêle de lui donner un avis, il m'en croira pour autant qu'il y verra quelque apparence de raison. Un enfant de bonne famille qui s'adonne à l'étude des lettres, non pas pour gagner de l'argent, car un but aussi abject est indigne de la grâce et de la faveur des muses, et de toute façon cela ne concerne que les autres et ne dépend que d'eux, et qui ne cherche pas non plus d'éventuels avantages extérieurs, mais plutôt les siens propres pour s'en enrichir et s'emparer au-dedans, comme j'ai plutôt envie de faire de lui un homme habile qu'un savant, je voudrais que l'on prenne soin de lui choisir un guide qui eût plutôt la tête bien faite que la tête bien pleine. Et qu'on exige de lui ces deux qualités, mais plus encore la valeur morale de l'intelligence que le savoir, et qu'il se comporte dans l'exercice de sa charge d'une nouvelle manière. Enfant, on ne cesse de crier à nos oreilles, comme si l'on versait dans un entonnoir, et l'on nous demande seulement de redire ce que l'on nous a dit. Je voudrais que le précepteur change cela, et que dès le début, selon la capacité de l'esprit dont il a la charge, il commence à mettre celui-ci sur la piste, lui faisant apprécier, choisir et discerner les choses de lui-même. Parfois, lui ouvrant le chemin, parfois, le lui laissant ouvrir. Je ne veux pas qu'il invente et parle seul. Je veux qu'il écoute son élève parler à son tour. Socrate et plus tard Alcésilas faisaient d'abord parler leurs élèves, puis leur parlaient à leur tour. L'autorité de ceux qui enseignent nuit généralement à ceux qui veulent apprendre. Cicéron De Natura Deorum 1.5. Il est bon qu'il le fasse trotter devant lui pour juger de son allure et jusqu'à quel point il doit descendre pour s'adapter à ses possibilités. Faute d'établir ce rapport, nous gâchons tout. Et savoir le discerner, puis y conformer sa conduite avec mesure. Voilà une des tâches les plus ardues que je connaisse, car c'est le propre d'une âme élevée et forte que de savoir descendre au niveau de l'enfant et de le guider en restant à son pas. Car je marche plus sûrement et plus fermement en montant qu'en descendant. Et si, comme nous le faisons habituellement, on entreprend de diriger plusieurs esprits de formes et de capacités si différentes en une même leçon et par la même méthode, il n'est pas étonnant que sur tout un groupe d'enfants, il s'en trouve à peine deux ou trois qui tirent quelques profits mérités de l'enseignement qu'ils ont reçu. Que le maître ne demande pas seulement à son élève de lui répéter les mots de sa leçon, mais de lui en donner le sens et la substance, et qu'il juge du profit qu'il en aura tiré, non par le témoignage de sa mémoire, mais par celui de son comportement. Qu'il lui fasse reprendre de 100 façons différentes ce qu'il vient d'apprendre, en l'adaptant à autant de sujets différents pour voir s'il l'a vraiment bien acquis et bien assimilé, et qu'il règle sa progression selon les principes pédagogiques de Platon. Régurgiter la nourriture telle qu'on l'a avalée prouve qu'elle est restée crue, sans avoir été transformée. L'estomac n'a pas fait son travail, s'il n'a pas changé l'état et la forme de ce qu'on lui a donné à digérer. Notre esprit ne se met en branle que par contagion, lié et assujetti qu'il est aux désirs et aux pensées des autres, esclaves et captifs de l'autorité de leur exemple. On nous a tellement habitués à tourner à la longe que nous n'avons plus d'allure qui nous soit propre. Notre vigueur et notre liberté se sont éteintes. J'ai vu personnellement à Pise un homme honorable mais tellement aristotélicien que son credo fondamental était celui-ci. La pierre de touche et la règle de toutes les pensées solides de toute vérité est leur conformité avec la doctrine d'Aristote. Il a tout vu et tout dit, et hors de cela, tout ne sont que chimères et inanités. Et cette opinion, pour avoir été interprétée un peu trop largement et en mauvaise part, le mit autrefois en grand embarras et pendant longtemps devant l'Inquisition à Rome. Qu'il lui fasse tout passer par l'étamine et ne lui inculque rien par sa simple autorité ou en exploitant sa confiance. Que les principes d'Aristote, non plus que ceux des stoïciens ou des épicuriens, ne soient pour lui des dogmes et qu'on lui présente cette diversité d'opinions, il choisira, s'il le peut, sinon il demeurera dans le doute. Il n'y a que les fous qui soient sûrs d'eux et catégoriques. Car moins que de savoir, douter m'est agréable, écrivait Dante dans l'Enfer, 11,93. Car s'il adopte les opinions de Xénophon et de Platon au terme de sa propre démarche, ce ne seront plus alors leurs opinions, mais bien les siennes. Qui suit seulement un autre ne suit rien, en fait. Il ne trouve rien et même ne cherche rien. Nous ne sommes pas soumis à un roi que chacun dispose de lui-même. Sénèque, épître 33. Qu'il sache, qu'il sait au moins. Il faut qu'il s'imprègne de leur caractère et non qu'il apprenne leurs préceptes. Qu'il oublie même sans remords d'où il les tient, mais qu'il sache se les approprier. La vérité et la raison appartiennent à tout le monde, et pas plus à celui qui les a exprimées la première fois que celui qui les répète ensuite. Et telle chose n'est pas plus selon Platon que selon moi, dès l'instant où nous la voyons et la comprenons de la même façon. Les abeilles butinent les fleurs de ci, de là, mais ensuite, elles en font du miel, qui est vraiment le leur. Ce n'est plus ni du thym, ni de la marjolaine. Ainsi, il transformera et mélangera les éléments empruntés à autrui pour en faire quelque chose qui soit vraiment de lui, son jugement. Et c'est ce jugement-là que tout ne doit viser qu'à former, son éducation, son travail et son apprentissage. Qu'il sache tout ce à quoi il a eu recours et ne montre que ce qu'il en a fait. Les pilleurs et les emprunteurs mettent en avant ce qu'ils ont bâti, ce qu'ils ont acquis et non ce qu'ils ont tiré des autres. Vous ne voyez pas les présents faits à un membre du Parlement. Vous ne voyez que les alliances qu'il a nouées et les honneurs obtenus pour ses enfants. Nul ne livre au public ce qu'il a reçu, mais chacun fait étalage de ce qu'il a acquis. Le gain de notre étude, c'est que l'on soit devenu meilleur et plus sage grâce à elle. Épicare me disait que c'est l'intelligence qui voit et qui entend. Que c'est elle qui profite de tout, qui organise tout, qui agit, qui domine et qui règne, et que toutes les autres choses sont aveugles, sourdes et sans âme. Et nous rendons cette intelligence servile et timorée en ne lui laissant pas la liberté de faire quoi que ce soit par elle-même. Qui demanda jamais à son élève ce qu'il pensait de la rhétorique et de la grammaire ou de telle ou telle sentence de Cicéron ? On nous plante les choses dans la mémoire, comme des flèches, comme des oracles, dans lesquels les lettres et les syllabes elles-mêmes participent de sa substance. Savoir par cœur n'est pas savoir, c'est conserver ce que l'on a confié à sa mémoire. Ce que l'on sait véritablement, on en dispose, sans avoir à se référer au modèle, sans tourner les yeux vers son livre. Médiocre connaissance qu'une connaissance purement livresque. Je veux qu'elle serve d'ornement et non de fondement, suivant en cela l'opinion de Platon qui dit « La fermeté, la loyauté, la sincérité sont la vraie philosophie. Les autres sciences qui ont d'autres buts ne sont que du phare. » Je voudrais bien voir comment le Paluel ou Pompée, ces beaux danseurs de notre temps, pourrait nous enseigner à faire des cabrioles en nous les montrant seulement, sans que nous ayons à quitter nos places. C'est pourquoi ce que font ceux qui prétendent instruire notre intelligence sans la mettre en mouvement. Ou bien qu'on puisse nous apprendre à manier un cheval, une pique, un luth ou la voix, sans nous y exercer, comme font ceux qui veulent nous apprendre à bien juger et à bien parler, sans nous exercer à parler ni à juger. Or, pour cet apprentissage, tout ce qui se présente à nos yeux nous sert de livre. La malice d'un page, la sottise d'un valet, un propos de table, mais ce sont autant de sujets nouveaux. C'est pour cela que la fréquentation des hommes est extrêmement favorable à l'éducation, de même que la visite des pays étrangers. Non pour en rapporter seulement, comme le font les gens de notre noblesse française, combien de pas fait Santa Rotonda ou la richesse des dessous de la Signora Livia, ou, comme d'autres encore, combien le visage de Néron sur quelque vieille pierre est plus long ou plus large que celui que l'on voit sur une vieille médaille. Mais au contraire, pour en rapporter surtout le caractère et les mœurs de ces nations, et pour frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui, je voudrais qu'on commence à le promener dès sa plus tendre enfance. D'abord pour faire d'une pierre deux coups dans les nations voisines dont le langage est le plus éloigné du nôtre et auxquelles, si nous ne la formons de bonne heure, la langue ne peut s'adapter. D'ailleurs, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'est pas bon d'élever un enfant dans le giron de ses parents. L'amour naturel les attendrit trop et relâche même les plus raisonnables. Ils ne sont pas à même de punir ses fautes, ni de le voir élever rudement et non sans risque, comme il le faut. Ils ne pourraient supporter de le voir revenir de son exercice, tout suant et tout couvert de poussière, qu'il boive chaud, qu'il boive froid, non plus que de le voir sur un cheval rétif ou affronter un redoutable tireur, le flairer au poing ou manipuler sa première arquebuse. Il n'y a pourtant pas d'autre moyen. Si l'on veut en faire un homme de bien, il ne faut pas l'épargner durant sa jeunesse et souvent aller contre les règles de la médecine. Qu'il vive en plein air et dans l'inquiétude. Horace, Ode 3, 2, vers 5. Il ne suffit pas de lui fortifier l'âme, il faut aussi lui fortifier les muscles. Car l'âme est trop accablée si elle n'est pas soutenue. Elle a trop à faire pour pouvoir faire face seule à ces deux fonctions à la fois. Je sais combien la mienne peine en compagnie d'un corps aussi sensible et aussi peu endurci qui se repose tellement sur elle. Et je découvre souvent dans mes lectures que mes maîtres font passer pour des exemples de grandeur d'âme et de courage des choses qui relèveraient plutôt de l'épaisseur de la peau et de la solidité des os. J'ai vu des hommes, des femmes et même des enfants ainsi faits qu'une bastonnade leur fait moins d'effet qu'à moi une chiquenaude, qui ne pipent et ne froncent même pas les sourcils sous les coups qu'on leur donne. Quand les athlètes imitent l'endurance des philosophes, c'est plutôt par leur vigueur physique que par celle du cœur. Or, l'accoutumance à supporter le travail est une accoutumance à supporter la douleur. Le travail est une sorte de callosité contre la douleur, dit Cicéron dans le Tusculane 2.15. Il faut habituer l'élève à la peine et à la dureté des exercices pour qu'il puisse supporter la douleur de la luxation, de la colique, du cautère et même de la prison et de la torture. Car il pourrait bien avoir à subir ces deux dernières par les temps qui courent. Les bons, ils sont en effet tout autant exposés que les méchants. Nous en faisons l'expérience. Quiconque s'oppose aux lois menace les gens de bien du fouet et de la corde. L'autorité du précepteur, qui doit être complète sur l'élève, est interrompue et entravée par la présence des parents. Et de plus, le fait qu'il puisse voir le respect que les gens de la maison lui témoignent et avoir connaissance des richesses de sa famille et de sa distinction, voilà, selon moi, des inconvénients non négligeables à cet âge-là. dans cet apprentissage des relations avec les hommes, j'ai souvent remarqué ce défaut. Au lieu de chercher à connaître les autres, nous ne travaillons guère qu'à donner connaissance de nous. Nous nous soucions bien plus de placer notre marchandise qu'à d'en acquérir de nouvelles. Or, le silence et la modestie sont des qualités très favorables aux relations avec les autres. On éduquera cet enfant pour qu'il ne fasse pas étalage du savoir qu'il aura acquis et à ne pas se formaliser des sottises et des fables que l'on pourra raconter en sa présence. Car c'est une incivilité que de critiquer tout ce qui n'est pas à notre goût. Qu'il se contente plutôt de se corriger lui-même et qu'il n'aille pas se donner l'air de reprocher à autrui ce qu'il se refuse à faire lui-même, ni se mettre en contradiction avec les règles générales du savoir-vivre. On peut être sage sans ostentation et sans arrogance, Sénèque, épître 103. Qu'il fuit ces attitudes prétentieuses et peu aimables, cette puérile ambition d'être différent des autres pour se donner l'air plus fin. Et comme si la critique et la nouveauté étaient une affaire délicate, vouloir s'en servir pour se faire un nom d'une valeur particulière. Comme il n'appartient qu'aux grands poètes d'user des licences de l'art, de même n'est-il supportable que de la part des âmes grandes et illustres de s'accorder des privilèges au-dessus des usages. Cicéron, dans le De Officiis 1,41, écrit « S'il est arrivé à un Socrate et un Aristippe de s'écarter de la coutume et des usages, il ne faut pas se croire permis d'en faire autant. Cela méritait cette licence par des qualités exceptionnelles et divines. On lui apprendra à ne se mettre à contester, à raisonner que face à un adversaire digne de lutter avec lui, et même, dans ce cas, à ne pas employer tous les tours qui pourraient lui servir, mais seulement ceux qui peuvent lui être plus utiles. Qu'on le rende difficile pour le choix et le tri de ses arguments, qu'il soit soucieux de leur pertinence et, par conséquent, de la brièveté. Qu'on lui donne, par-dessus tout, l'habitude de s'avouer battu et de rendre les armes à la vérité dès qu'il l'apercevra, qu'elle apparaisse dans les mains de son adversaire ou qu'elle se fasse jour en lui-même en changeant d'avis. Car il ne sera pas installé en chair pour débiter un texte convenu. Il n'est assujetti à aucune autre cause que celle qu'il approuve. Et il ne pratiquera pas ce métier où se vend en argent comptant la liberté de pouvoir changer d'avis et de reconnaître son erreur. Aucune nécessité ne le contraint à défendre des idées qu'on lui aurait prescrites et imposées. Cicéron Académique 2-3. Si son précepteur a le même caractère que le mien, il en fera un loyal serviteur de son prince, très zélé et très courageux. Mais il le détournera de la tentation de s'y attacher autrement que par devoir officiel. Outre plusieurs autres inconvénients qui nuisent à notre liberté à cause des obligations particulières que cela entraîne, le jugement d'un homme engagé est rétribué forcément ou moins impartial et moins libre ou bien taxé d'incompétence et d'ingratitude. Un vrai courtisan ne peut avoir ni le pouvoir ni la volonté de parler, de penser autrement que de façon favorable à son maître, qui, parmi tant de milliers d'autres qui sont ses sujets, l'a choisi pour l'entretenir et le faire valoir de sa propre main. Cette faveur et cet avantage l'éblouissent et corrompent sa liberté, non sans quelque raison d'ailleurs. C'est pourquoi le langage de ces gens-là est habituellement différent de ceux que l'on emploie dans les divers métiers, et l'on ne peut guère lui accorder de crédit. Que la conscience et les qualités de l'élève, au contraire, brillent dans ses paroles, et qu'elle n'ait que la raison pour guide. Qu'on lui fasse comprendre ceci, reconnaître la faute qu'il découvre dans son propre raisonnement, même si elle ne s'est décelée que par lui, est la conséquence d'un jugement et d'une sincérité qui sont les objectifs mêmes qu'il doit poursuivre. et que s'obstiner et contester sont des manières bien communes, et que l'on rencontre surtout dans les âmes les plus basses, que se raviser, se corriger, abandonner une position mauvaise dans le vif d'une discussion, ce sont là au contraire des qualités rares, fortes et philosophiques. On l'avertira d'avoir les yeux partout quand il sera en société, car je trouve que les premiers sièges sont habituellement occupés par des hommes les moins capables, et que les situations aisées ne se trouvent que rarement correspondre aux capacités de ceux qui les détiennent. Et j'ai remarqué que pendant qu'on s'entretenait du haut bout de la table de la beauté d'une tapisserie ou du goût de la malvoisie, beaucoup de belles pensées se perdaient à l'autre bout. Il sondera les capacités de tout un chacun, bouvier, maçon, passant. Il faut tout exploiter et utiliser chacun pour ce qu'il a, car tout sert dans un ménage. Et même la sottise et la faiblesse des autres l'instruiront. En examinant les attitudes et les manières de tout le monde, il ressentira de l'envie envers les bonnes et du mépris pour les mauvaises. Qu'on lui mette dans l'esprit une honnête curiosité à connaître toute chose, et tout ce qu'il y aura de singulier autour de lui, il le verra. Un bâtiment, une fontaine, un homme, le lieu d'une ancienne bataille, l'endroit où est passé César ou bien Charlemagne. Quelle terre est engourdie par la glace, quelle autre est rendue poudreuse par la chaleur, quel est le vent favorable pour pousser les voiles en Italie. Properce 4-3. Il s'informera sur les mœurs, les moyens et les alliances de tel prince ou de tel autre. Ce sont là des choses bien plaisantes à apprendre et très utiles à connaître. Dans cette fréquentation des hommes, j'entends inclure et principalement ceux qui ne vivent que par la mémoire des livres. L'élève devra donc fréquenter par le biais des récits historiques les grandes âmes des meilleurs siècles. C'est une étude qui peut paraître vaine à certains, mais c'est aussi pour d'autres une étude dont le profit est inestimable. Et c'est aussi la seule étude, comme le dit Platon, que les lacédémoniens eussent conservée en ce qui les concerne. Car quel profit ne tirera-t-il pas à la lecture des vies de notre Plutarque ? Mais que le guide, selon mes voeux, ne perde pas de vue son objectif et qu'il fasse en sorte que son disciple se souviennent plutôt du caractère d'Hannibal et de Scipion que de la date de la ruine de Carthage. Et plutôt que de l'endroit où mourut Marcellus, qu'il se souvienne des raisons pour lesquelles il fut indigne de son devoir qu'il y mourut. Qu'il ne lui apprenne pas tant les habites histoires qu'à en juger, car c'est à mon avis entre toute la matière à laquelle nos esprits s'appliquent de la façon la plus diverse. J'ai lu dans Tite-Live, sans chose que d'autres n'y ont pas lu. Plutarque y a lu sans autre que celle que j'ai su y lire, et peut-être même au-delà de ce que l'auteur y avait mis. Pour certains, c'est un simple objet d'étude pour la grammaire. Pour d'autres, c'est le corps même de la philosophie qui y est dévoilé, et c'est par là que les parties les plus cachées de notre nature se laissent pénétrer. Il y a dans Plutarque bien des développements dignes d'être connus, car à mon avis il est le maître en ces matières. Mais il y en a mille autres qu'il n'a fait qu'effleurer. Il indique seulement du doigt vers quoi nous pouvons aller si cela nous plaît, et se contente parfois de n'en donner qu'une esquisse au beau milieu d'un exposé. Il faut extraire ces choses-là et les mettre en évidence. Ainsi ce mot de lui, selon lequel les habitants d'Asie étaient esclaves d'un seul homme, parce que la seule syllabe qu'ils ne savaient pas prononcer était « non », et qui a peut-être donné la matière et l'occasion à la Boétie d'écrire sa servitude volontaire. Le fait même de lui voir souligner une petite action dans la vie d'un homme, ou même un simple mot qui semble sans importance, est quelque chose qui donne à réfléchir. Il est dommage que les gens intelligents aiment tant la brièveté. Sans doute cela vaut-il mieux pour leur réputation, mais nous en tirons moins de profit. Plutarque aime mieux que nous la variation pour son jugement que pour son savoir. Il aime mieux nous laisser sur notre faim plutôt que d'être rassasiés. Il savait que même à propos des choses intéressantes, on peut en dire trop, et que c'est à juste titre qu'Alexandre Lydas reprocha à celui qui tenait des propos sensés, mais trop longs, au magistrat de Sparte, « Ô étranger, tu dis ce qu'il faut autrement qu'il ne le faut. » Ceux qui ont le corps grêle le grossissent avec des rembourrages, et ceux qui n'ont que peu d'idées à exposer les gonflent avec des paroles. La fréquentation du monde fournit un éclairage précieux pour la compréhension du genre humain. Nous sommes tous repliés sur nous-mêmes, et notre vue ne dépasse guère le bout de notre nez. On demandait à Socrate d'où il était. Il ne répondit pas d'Athènes, mais du monde. Lui, qui avait un esprit mieux rempli et plus large que celui des autres, il embrassait l'univers comme sa ville, et dédiait ses connaissances, sa société, ses affections à tout le genre humain. À la différence de nous, qui ne regardons que le bout de nos pieds, quand les vignes gèlent dans mon village, mon curé en tire argument disant que c'est la manifestation de la colère de Dieu contre la race humaine. Et il doit penser que les cannibales eux-mêmes en auront bientôt la pépille. Ici, Montaigne s'écarte un peu de son propos par des considérations sur le roi et les guerres, et il y revient. Quand on lui aura enseigné ce qui lui permet de devenir plus sage et meilleur, on lui exposera ce que c'est que la logique, la physique, la géométrie, la rhétorique. Et comme son jugement sera déjà formé, il viendra rapidement à bout de la science qu'il aura choisie. Là, le sort se fera tantôt par une discussion, tantôt avec des livres. Tantôt, son précepteur lui fournira des textes d'auteurs concernant ce sujet. Tantôt, il lui en fournira la moelle et la substance toute mâchée. Et s'il n'est pas de lui-même suffisamment familier des livres pour être capable d'y trouver les belles idées qui y sont si nombreuses, alors on pourra lui adjoindre un homme de lettres qui l'aidera à réaliser son dessein en lui fournissant à chaque fois que le besoin s'en fera sentir les provisions qui lui sont nécessaires pour qu'il puisse les distribuer et les dispenser à son, entre guillemets, « nourrisson ». Et qui douterait que ce genre d'enseignement ne soit plus facile et plus naturel que celui de Gaza? On ne trouve là que règles épineuses et peu plaisantes, mots sans importance et comme décharnés, où l'on ne trouve pas de prise, rien qui puisse vous éveiller l'esprit. Dans celui que je préconise, au contraire, l'esprit trouve où mordre et se nourrir. Et ce fruit-là, sans conteste plus grand, sera pourtant plutôt mûri. C'est étrange que les choses en soient venues à ce point à notre époque et que la philosophie ne soit, même pour les gens intelligents, qu'un mot creux et chimérique, qui ne soit d'aucune utilité et n'ait d'aucune valeur ni dans l'opinion générale ni dans la réalité. Je crois que la cause en est que ces grandes aventures ont été occupées par des discussions oiseuses. On a grand tort de la décrire comme quelque chose d'inaccessible aux enfants et de lui faire un visage renfrogné, sourcilleux et terrible. Qui donc lui a mis ce masque d'un visage blême et hideux? Il n'est rien de plus gai, de plus allègre, de plus enjoué, et pour un peu, je dirais même, folâtre. Elle ne prêche que la fête et le bon temps. Une mine triste et abattue, voilà qui montre bien que ce n'est pas là qu'elle habite. Une âme où réside la philosophie doit, par sa bonne santé, rendre sain le corps lui aussi. Elle doit manifester au dehors sa tranquillité et son contentement. Elle doit former sur son propre modèle l'apparence extérieure et l'armer par conséquent d'une gracieuse fierté, d'un comportement actif et allègre, d'une physionomie avenante et détendue. La marque la plus caractéristique de la sagesse, c'est une bonne humeur permanente. Son état est comme celui des choses au-delà de la lune, toujours serein. Ce sont Barocco et Barralipton qui rendent leurs dévots si crasseux et enfumés. Ce n'est pas la sagesse qu'ils ne connaissent que par oui-dire. Ce qu'elle est, elle s'emploie à calmer les tempêtes de l'âme, à faire rire de la faim et des fièvres, non par quelques épicycles imaginaires, mais par des arguments naturels et bien palpables. Elle a pour but la vertu, qui n'est pas, comme on le dit dans les écoles, plantée au sommet d'une montagne abrupte, escarpée et inaccessible. Ceux qui l'ont approchée la présentent au contraire comme demeurant sur un beau plateau fertile et fleuri, d'où elle voit bien toutes les choses qui sont en dessous d'elle. Et celui qui connaît où se situe cet endroit peut y parvenir par de chemins ombragés, recouverts de gazon et de fleurs, agréablement, car leur pente est douce et régulière, comme celle des voûtes célestes. Ils n'ont pas réussi à devenir les familiers de cette vertu suprême, belle, triomphante, aimante, délicieuse et courageuse, ennemie déclarée et irréconciliable de l'aigreur, de la tristesse, de la crainte et de la contrainte, qui n'a pour guide que la nature et pour compagne la bonne fortune et la volupté. Et c'est pour cela, à cause de leur faiblesse, qu'ils en ont donné cette image triste, querelleuse, dépitée, menaçante, renfrognée, et qu'ils l'ont placée sur un rocher à l'écart, parmi les ronces comme un fantôme bien fait, pour effrayer les gens. Mon précepteur, qui sait qu'il a pour tâche de former la volonté de son élève avec autant ou plus d'affection que de respect envers la vertu, lui dira que les poètes suivent eux aussi les sentiments communs, et il fera en sorte qu'ils se rendent compte de ce que les dieux ont mis la sueur dans les avenues qu'ils mènent aux appartements de Vénus, plutôt que dans celles qui conduisent chez Pallas. Et quand il commencera à s'éveiller à ces choses-là, il lui présentera Bradamante ou Angélique comme maîtresse offerte à son amour, la première d'une beauté naturelle, active, généreuse, non pas homme masse, mais virile, l'autre d'une beauté molle, recherchée, délicate, artificielle, l'une travestie en garçon, coiffée d'un casque luisant, et l'autre vêtue en fille, portant un bonnet orné de perles. Il jugera que son amour est bien viril s'il fait le choix inverse de celui que fit cet efféminé pasteur de Phrygie, et il lui enseignera quelque chose de nouveau. Le prix et la grandeur de la vraie vertu résident dans sa facilité, son utilité et le plaisir que l'on en tire. Elle est tellement exempte de difficultés que les enfants peuvent l'atteindre aussi bien que les hommes et les gens simples comme les plus malins, car sa façon d'agir, c'est la modération et non la force. La sagesse aime la vie, elle aime la beauté, la gloire et la santé. Mais sa tâche particulière, c'est de savoir user de ces biens-là avec modération et de savoir les perdre avec constance. C'est une tâche bien plus noble que rude, et sans laquelle le cours d'une vie est dénaturé, troublé et déformé. Et c'est alors que l'on peut lui associer ses écueils, ses fourrés et ses monstres dont j'ai parlé tout à l'heure. Si l'élève se montre si étrange qu'il est mieux entendre une fable que le récit d'un beau voyage ou un sage propos quand il sera capable de le comprendre, si au son du tambourin qui suscite la jeune ardeur de ses compagnons, il préfère se tourner vers un autre qu'il appelle au jeu des battleurs, si son goût le conduit à trouver plus plaisant et plus doux de revenir du jeu de paume ou du bal avec le prix gagné à cet exercice, plutôt que de revenir d'un combat poudreux et victorieux, alors je ne vois pas d'autre solution que de le mettre comme pâtissier dans quelque bonne ville, fût-il le fils d'un duc, suivant en cela le précepte de Platon qu'il faut donner aux enfants une place dans la société, non selon les ressources de leur père, mais selon les ressources de leur âme. Puisque la philosophie est ce qui nous apprend à vivre, et que même l'enfance, tout autant que les autres âges, y a des leçons à prendre, pourquoi ne pas la lui enseigner ? L'argile est molle et humide, il faut l'ouater, et que la roue agile, en tournant, la façonne. Perse 3, 23, 25. On nous apprend à vivre quand la vie est passée. 100 étudiants ont attrapé la vérole avant d'en être arrivés à la leçon d'Aristote leur enseignant la tempérance. Cicéron disait que même s'il vivait aussi longtemps que deux hommes, il ne prendrait pas la peine d'étudier les poètes lyriques. Et je trouve ce qu'on peut appeler des ergoteurs encore plus tristement inutiles. L'enfant dont je parle est bien plus pressé. Il ne doit à l'éducation que les premiers 15 ou 16 ans de sa vie. Le reste est dû à l'action. Il faut donc employer un temps si court aux enseignements nécessaires, ôter toutes les choses superflues, comme les subtilités épineuses de la dialectique qui sont sans effet sur notre vie. Et prenez les sujets simples dont s'occupe la philosophie, sachez les choisir et les traiter comme il faut. Ils sont plus faciles à comprendre qu'un conte de Bocasse. Un enfant n'est capable, dès qu'il a quitté sa nourrice, bien mieux que d'apprendre à lire ou à écrire. La philosophie traite du premier âge des hommes aussi bien que leur décrépitude. Je suis de l'avis de Plutarque. Aristote s'occupa moins d'apprendre à son éminent élève l'art de composer des syllogismes ou les principes de la géométrie, qu'à lui enseigner les bons préceptes concernant la vaillance, la bravoure, la magnanimité, la modération, et lui donner l'assurance que l'on a quand on n'a peur de rien. Et avec ce bagage, il envoya ensuite ce jeune homme soumettre le monde entier avec 30 000 fantassins, 4 000 chevaux et 42 000 écus seulement. Les autres arts et sciences, dit plus tard que Alexandre les honorait, il louait leur excellence et leur noblesse, mais malgré le plaisir qu'il y prenait, il n'était pas homme à se laisser séduire au point de vouloir les pratiquer. C'est bien ce que disait Épicure au début de sa lettre à Ménécée. Que le plus jeune se refuse à philosopher et que le plus vieux ne s'en lasse. Celui qui fait autrement semble dire, ou bien qu'il n'est pas encore venu le moment de vivre avec bonheur, ou bien que ce n'est plus le moment. Et pour tout ce qui vient d'être dit, je ne veux pas que l'on emprisonne ce garçon. Je ne veux pas qu'on le livre à l'humeur colérique et mélancolique d'un maître à l'esprit dérangé. Je ne veux pas corrompre son esprit en le soumettant à la torture et au travail comme les autres 14 ou 15 heures par jour, comme un portefaix. Si on le voyait trop absorbé par l'étude des livres du fait de sa prédisposition naturelle à la solitude et à la mélancolie, je ne trouverais pas bon non plus qu'on entretint ce penchant-là, car cela rend les enfants incapables de prendre part à la vie en société et les détourne d'occupations plus importantes. Combien en ai-je vu de mon temps de ces hommes abêtis par une avidité de science inconsidérée ? Carnéade s'en trouva tellement accaparé qu'il ne trouvait même plus le temps de se couper les cheveux ni de se faire les ongles. Je ne veux pas non plus que les bonnes dispositions de l'enfant se trouvent gâtées par la grossièreté et la brutalité des autres. On disait autrefois de la sagesse française en guise de proverbe qu'elle commençait de bonne heure, mais ne durait guère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si les petits enfants de France semblent d'abord très attachants, ils déçoivent ensuite généralement les espoirs qu'on avait nourris à leur sujet. Parvenu à l'âge adulte, on ne trouve chez eux rien de remarquable. J'ai entendu dire par des gens intelligents que ce sont les collèges où on les envoie, et qui sont très nombreux, qui les abrutissent ainsi. Pour notre élève, une chambre, un jardin, une table et un lit. La solitude et la compagnie, le matin et le soir, à toute heure et à tout endroit, comme salle d'étude. Car la philosophie, qui sera son principal objet d'étude en tant qu'elle forme le jugement et le caractère, a cet avantage de pouvoir s'introduire partout. L'orateur Isocrate, que l'on priait de parler de son art au cours d'un festin, eut bien raison de répondre. « Ce n'est pas le moment de montrer ce que je sais faire. Est-ce qu'il faudrait justement montrer ? Je ne sais pas le faire. » Et en effet, présenter des harangues ou des joutes de rhétorique à une compagnie de gens assemblés pour rire et faire bonne chère, ce serait mélanger des choses trop disparates. Et l'on pourrait en dire autant des autres sciences, mais la philosophie, elle, en ce qu'elle traite de l'homme, de ses devoirs et de ses actions, tous les sages ont toujours estimé qu'elle était propice à la conversation et que pour cette raison, elle ne devait pas être rejetée ni des festins ni des jeux. Et Platon, l'ayant invité à son banquet, on peut voir comment il y entretient l'assistance d'une façon douce et en accord avec le temps et le lieu, bien que ses sujets soient les plus élevés et les plus salutaires. Elle est utile aux pauvres comme aux riches, et ils la négligent. Jeunes et vieux auront également à s'en repentir. Horace, épître 1.1. Ainsi, sans doute, chômera-t-il moins que les autres. Mais de même qu'en nous promenant dans une galerie, nous faisons 3 fois plus de pas qu'il n'en faudrait, et que nous ne nous enlassons pas, à la différence de ceux que nous devons faire pour suivre un chemin prévu d'avance, de même, notre leçon, qui se fait comme par hasard sans contrainte de temps ni de lieu et se mêlant à toutes nos actions, se déroulera sans même se faire sentir. Les jeux eux-mêmes et les exercices constitueront une bonne partie de l'étude. La course, la lutte, la musique, la danse, la chasse, le maniement des chevaux et des armes. Je veux que la bonne tenue extérieure, la façon de se comporter en société et la souplesse du caractère se façonnent en même temps l'esprit. Ce n'est pas une âme, ce n'est pas un corps que l'on forme. C'est un homme, il ne faut donc pas les traiter séparément. Et comme le dit Platon, il ne faut pas former l'un sans l'autre, mais les conduire ensemble au même pas, comme un couple de chevaux attelés à un même timon. Et si on le comprend bien, ne semble-t-il pas accorder plus de temps et de sollicitude aux exercices physiques parce que l'esprit en tire profit en même temps, alors que le contraire n'est pas vrai? En tout état de cause, cette éducation doit être conduite avec une douce sévérité et non comme on le fait. Au lieu d'inciter les enfants à l'étude des lettres, on ne leur présente en fait qu'horreur et cruauté. Supprimer la violence et la force. Il n'est rien, à mon avis, qui rabaisse et abrutisse à ce point une bonne nature. Si vous voulez que cet enfant craigne la honte et le châtiment, ne l'y endurcissez pas. Endurcissez-le à supporter la sueur et le froid, le vent et le soleil, et à mépriser le danger. Ôtez-lui le goût des choses molles et délicates pour le vêtir et le dormir, pour le manger et pour le boire. Habituez-le à tout. Que ce ne soit pas un beau garçon efféminé, mais un garçon vert et vigoureux. Enfant, homme mûr ou vieux, j'ai toujours été de cet avis. Mais, entre autres choses, je dois dire que la façon dont on s'y prend dans la plupart de nos collèges m'a toujours déplu. On eût causé moins de dommages en faisant preuve de plus d'indulgence, car ce sont là de vrais geôles pour une jeunesse captive. Et l'on rend ces jeunes gens débauchés en les punissant avant même qu'ils ne le soient. Arrivés au moment où ils sont au travail, vous n'entendez que des cris, ceux des enfants maltraités, ceux de leurs maîtres en colère. Voilà une belle façon, vraiment, pour intéresser à sa leçon cet âge tendre et craintif encore, que de lui montrer une trogne effrayante en brandissant des fouets. Ce n'est qu'une habitude inique et pernicieuse. Ajoutons-y ce que Quintilien a fort bien remarqué, à savoir que cette impérieuse autorité entraîne des conséquences dangereuses, et notamment ce qui concerne les châtiments appliqués. Ne serait-il pas plus décent de voir les classes jonchées de fleurs et de feuilles que de badines d'osier sanglantes? J'y ferai peindre, moi, des fresques représentant la joie, l'allégresse, Flora et les Trois Grâces, comme le fit dans sa propre école le philosophe Speusippe. Là où les enfants trouvent leur profit, qu'ils y trouvent aussi du plaisir. Il faut mettre du sucre sur les nourritures qui sont bonnes pour eux, et mettre du fiel sur celles qui leur sont nuisibles. Il est remarquable de voir combien Platon se montre soucieux dans ses lois de la gaieté et des distractions de la jeunesse de sa cité, et comment il s'intéresse de près à leurs courses et à leurs jeux, à leurs chansons, à leurs sauts et à leurs danses. Il dit d'ailleurs que dans la plus haute antiquité, on en avait confié la conduite et le patronage aux dieux eux-mêmes, à Apollon, à Minerve et aux Muses. Il étend ce souci jusqu'à donner 1000 préceptes pour ses gymnases. Mais il s'intéresse fort peu aux études littéraires et ne semble recommander la poésie que pour la musique qui l'accompagne. Toute bizarrerie et singularité dans nos manières et façons de vivre doit être évitée parce qu'elle est l'ennemie de la communication en société et contre nature. Qui ne s'étonnerait du tempérament de Démophon, intendant d'Alexandre, qui suait à l'ombre et tremblait au soleil? J'en ai vu qui fuyaient l'odeur des pommes bien plus que les tirs d'arquebuse. D'autres qui s'effrayaient d'une souris, qui vomissaient rien qu'à voir de la crème ou quand on secouait un lit de plumes, de même que Germanicus ne pouvait supporter la vue ni le chant des coqs. Il se peut qu'il y ait à cela quelques dispositions cachées, mais on l'inhiberait, à mon avis, en s'y prenant de bonheur. L'éducation a eu sur moi cet effet et que mon appétit s'accommode de tout ce que l'on mange d'ordinaire, sauf de la bière. Mais il est vrai que cela ne s'est pas fait tout seul. Quand le corps est encore souple, on doit en profiter pour le faire se plier à toutes sortes de manières et d'habitudes. Pourvu que l'on puisse garder le contrôle de ses désirs, de sa volonté, qu'on n'hésite pas à rendre un jeune homme apte à se sentir à l'aise dans n'importe quel pays et n'importe quelle compagnie, et même à supporter les dérèglements et les excès, s'il le faut, mais que sa conduite se conforme aux usages, qu'il soit capable de tout faire et n'aime à faire que les choses bonnes. Les philosophes eux-mêmes reprochent à Callisthène d'avoir perdu les bonnes grâces du grand Alexandre, son maître, pour n'avoir pas voulu boire autant que lui. Il rira donc, fera le fou et se débauchera avec son prince. Je veux qu'en la débauche elle-même, il surpasse ses compagnons par sa vigueur et sa détermination, et qu'il évite de faire le mal, non par manque de force ou de savoir, mais par sa seule volonté. Il y a une grande différence entre ne pas vouloir faire le mal et ne pas savoir le faire. Sénèque, Épître 90. L'élève ne récitera pas sa leçon, mais il la pratiquera plutôt. C'est en acte qu'il la répétera. On verra s'il est prudent dans son entreprise, s'il y a de la bonté et de la justice dans sa conduite, s'il a du jugement et si son langage est distingué, de la résistance dans ses maladies, de la retenue dans ses jeux, de la modération dans ses plaisirs, de l'ordre dans la gestion de ses biens, de l'indifférence dans ses goûts pour la viande, le poisson, le vin ou l'eau. Qui fait de sa science non un sujet d'ostentation, mais la règle de sa vie, et qui sait obéir à soi-même, se soumettre à ses propres principes. Cicéron, Tusculane 2. Le vrai miroir de nos pensées, c'est le cours de nos vies. à celui qui lui demandait pourquoi les lacédémoniens ne mettaient pas par écrit les règles de la vaillance pour les donner à lire à leurs jeunes gens. Zeuxidamos répondit que c'était parce qu'il voulait les habituer aux actes et non aux paroles. Comparez un de ces jeunes gens au bout de 15 ou 16 ans, un de ces latineurs de collège qui aura mis autant de temps pour apprendre seulement à parler. Le monde n'est que du bavardage. On parle bien souvent plus qu'on ne le devrait, et la moitié de notre vie se passe à cela. On nous prend 4 ou 5 ans pour comprendre les mots et en former des phrases. Autant encore à édifier, selon des proportions fixées, un grand ensemble organisé en 4 ou 5 parties, et 5 autres encore pour le moins pour apprendre à les démêler rapidement et les entrelacer de façon subtile. Laissons donc cela à ceux qui en font leur profession. Allant un jour à Orléans, je rencontrai dans la plaine avant Cléry 2 maîtres d'école qui venaient à Bordeaux à 50 pas environ l'un de l'autre. Et plus loin, derrière eux, je vis une troupe avec à sa tête un maître qui était feu Monsieur le comte de La Rochefoucauld. Un de mes gens demanda au premier des maîtres qui était ce gentilhomme qui venait après lui. Et comme il n'avait pas vu la colonne qui le suivait, il pensa que c'était de son compagnon qu'il était question, et fit cette réponse amusante. Oh, il n'est pas gentilhomme, il est grammairien, et moi je suis logicien. Or, nous qui cherchons au contraire à former non pas un grammairien ni un logicien, mais un gentilhomme, laissons-les perdre leur temps. Nous avons autre chose à faire. Pourvu que notre disciple ait un bon bagage, les paroles ne suivront que trop. Il les traînera si elles ne veulent suivre. J'entends des gens qui s'excusent de ne pouvoir s'exprimer et se donnent l'air de ceux qui ont la tête pleine de bien belles choses, mais qui manquent l'éloquence pour les mettre en évidence. Ce n'est que tromperie. Et savez-vous s'il est en réalité, selon moi? Ce ne sont que des apparences qui leur viennent de quelques idées informes, qui ne peuvent ni démêler ni éclaircir en eux-mêmes, et qui sont donc bien incapables de produire au dehors. Ils ne se comprennent même pas eux-mêmes. Voyez comment ils se mettent à bégayer au moment d'enfanter quelques pensées. Vous comprendrez que leur travail n'en est pas encore parvenu à l'accouchement, mais à la conception, et qu'ils ne font encore que relécher cette matière imparfaite. En ce qui me concerne, je pense, et Socrate en a décidé ainsi, que quiconque a dans l'esprit une idée forte et claire la manifestera, soit dans son patois, soit en la mimant s'il est muet. Si l'on possède son sujet, les mots viennent sans difficulté, Horace Art Poétique. Et comme me disait celui-là en prose, mais aussi poétiquement, quand les choses ont saisi l'esprit, les mots viennent sans difficulté. Sénèque controverse de Prémium. Et encore cet autre, les choses d'elles-mêmes entraînent les paroles. Cicéron de Finibus 3.5. Il ne sait pas ce qu'est l'ablatif, ni le conjonctif, ni le substantif, ni la grammaire elle-même. Son laquais ne le sait pas non plus, ni la harangère du petit pont, et pourtant ils vous entretiendront tout votre sou si vous le voulez, et probablement ne s'empêtreront pas plus dans les règles de leur langage que le meilleur des maîtres est-ce l'être de France. Il ne connaît pas la rhétorique et ne sait pas capter la bienveillance du lecteur de bonne foi dans son avant-propos, mais peu lui chaud de le savoir. Et en vérité, tout ce beau vernis est bien vite annulé par l'éclat d'une vérité simple et naturelle. Montaigne nous parle ensuite longuement de différentes manières de se vêtir, de l'éducation selon son père, de ses propres aptitudes, des faiblesses aussi qu'il a eues pour travailler, et il termine l'essai ainsi. Et pour en revenir à mon propos, il n'y a rien de tel que d'ouvrir l'appétit et de susciter l'affection. Autrement, on ne fait que des ânes chargés de livres. On leur impose à coup de fouet la garde d'une valise pleine de science. Il faudrait, pour bien faire, qu'ils ne se contentent pas de la loger chez eux, mais qu'ils l'épousent.